qui votez. Vous écoutez l'émission entre 9 et 10 heures. Vous classez par ordre de préférence les 4 reportages présentés par la Belgique, le Canada, la France et la Suisse. Et vous communiquez votre vote à l'issue de l'émission. Pour faire partie du jury, rendez-vous dès à présent sur notre site franceinter.fr. Et bienvenue au club.
France Inter.
La voix est libre.
Là-bas, si j'y suis, c'est avec Daniel Mermet sur France Inter, c'est maintenant.
Lettre ouverte à Monsieur l'ambassadeur de Chine en France. Monsieur l'ambassadeur, le braconnage des rhinocéros noirs et blancs en Afrique s'est considérablement aggravé ces derniers temps pour approvisionner les citoyens chinois qui utilisent la poudre de corne. Aussi, ces animaux extraordinaires sont en voie de disparition dans plusieurs pays africains pour satisfaire des croyances erronées ou une démonstration de statut social élevé. Je ne peux admettre une telle situation qui va priver les pays africains d'une ressource touristique importante et mes enfants d'un spectacle inestimable. Aussi, j'ai décidé d'envoyer systématiquement la kératine de mes doigts de pied à votre ambassade pour remplacer la kératine des cornes de rhinocéros. Je vous assure que cette kératine est bio et qu'elle est bien plus performante pour l'activité sexuelle que celle d'animaux préhistoriques. Je peux fournir toutes les attestations le prouvant. Je pense sincèrement contribuer ainsi à la sauvegarde des derniers rhinocéros en cédant cette kératine de qualité gratuitement à votre pays qui n'a pas encore trouvé les moyens, malgré son incroyable taux de croissance économique, de faire cesser des pratiques du Moyen-Âge.
Oui, bonjour à toute l'équipe, c'est Pierre de Strasbourg. Je travaille à l'AFPA, l'Association pour la formation professionnelle des adultes, une maison qui a 60 ans, qui est en cessation de paiement. Le 8 janvier, on passe au tribunal de grande instance de Paris pour un dépôt de bilan. Jeudi 22 novembre 2012, on organise une manifestation avec des gens qui viendront de toute la France devant l'hôtel Matignon afin que le gouvernement débloque des fonds pour sauver l'entreprise. On est 9000 salariés. C'était Pierre de Strasbourg.
Bonjour, nous sommes l'école d'architecture de Bretagne. Nous tenons à signaler qu'actuellement, nous travaillons, certes, mais nous travaillons dans la rue. Les professeurs sont avec nous, l'administration est avec nous. Le gouvernement s'est déclaré très attaché à la culture. Aurélie Filippetti a déclaré lors de sa visite du pavillon français à la Biennale de Venise que l'enseignement de l'architecture ne devait pas souffrir des restrictions budgétaires annoncées pour 2013. Or, il souffre. Pourquoi est-ce qu'un élève architecte, alors que l'architecture est reconnue d'utilité publique, vaudrait-il moins qu'un élève ingénieur? Nous appelons les autres écoles à elles aussi venir travailler dans la rue pour qu'on nous voit enfin et peut-être pour éviter que les gens s'habituent à nous voir dans la rue.
Je viens d'entendre M. de Margerie s'exprimer à l'antenne. C'est vrai que j'avais quelques inquiétudes sur l'exploitation des gaz de schiste. Là, je dois avouer que je suis entièrement rassuré. J'ai appris qu'on pouvait polluer tout ce qui était autre que les nappes phréatiques potables. Ça posait pas de problème. Donc ça, c'est un point qui me rassure énormément. Hein. Deuxième point également, c'est savoir que les détergents, donc au phosphate, polyphosphate, etc., n'étaient pas polluants, donc en masse notamment. Et puis troisième point, M. de Margerie aussi a dit que c'est important les mots, et effectivement, la fracturation hydraulique, c'est pas très beau, et donc la stimulation hydraulique, ça va beaucoup mieux. Donc c'était pour lui dire que moi j'étais disponible à le rencontrer pour lui stimuler sa face quand il veut, ça pose aucun problème. Voilà.
Ouais, salut à tous. Je fais partie des 3000 personnes qui ont envoyé des sous à Mitin de Pangée pour faciliter la réalisation de ton prochain film sur Howard Zinn et l'histoire populaire des États-Unis. Et hier, j'étais en train de le visionner, ce qu'on a reçu déjà de ce que vous avez préparé pour le film. Et puis, en entendant l'émission et tes propos donc, que tu as relevés d'un ministre israélien et du fils d'Ariel Sharon par rapport à la situation actuelle, ça m'a fait penser que s'il y a des gens qui sont un petit peu curieux sur le sujet, au Mutin de Pangée, ils ont un film qui s'appelle « American Radical ». Et c'est la vie de Norman Finkelstein, qui est un juif intellectuel américain qui combat de toutes ses forces la position d'Israël. Et c'est vraiment un film édifiant, d'une très forte radicalité. Et je conseille vraiment aux gens qui achèteraient ce film au Mutin de Pangée d'aller jusqu'au bout et de voir notamment les entretiens avec Dominique Vidal qui éclaire bien le point de vue de Norman Finkelstein. Voilà, c'est l'auteur notamment de l'industrie de l'Holocauste qui est paru aux éditions de la Fabrique. Allez, ciao, viva, portez-vous bien.
Merci pour tous ces messages. Et ce dernier message, en effet, une bonne idée de découvrir, pour ceux qui l'ignorent, le travail de Norman Finkelstein, ce chercheur américain, effectivement très radical, dans ce DVD des Mutins de Pangée, nos amis les Mutins de Pangée, avec qui effectivement nous sommes en train de réaliser un film sur Howard Dean. Je crois vous l'avoir déjà dit quand même à plusieurs reprises. Howard Dean, une histoire américaine pour laquelle réalisation nous suscitons votre soutien et vos souscriptions, bien évidemment, ça marche. Et ce qu'on vient de nous dire, effectivement, c'est qu'il y a un premier élément du film en cours de travaux, work in progress, qui est visible si vous allez sur le site des Mutins de Pangée. Ça vous rappellera quelque chose, parce que ça se passe à Lawrence, à côté de Boston, dans le Massachusetts. Vous en avez eu des échos dans nos suites de reportages, mais cette fois, vous avez les images, vous avez cette séquence du film en travaux, et c'est évidemment pour vous inciter à soutenir cette entreprise et ce travail vers un film qui, selon la même démarche qui nous avait conduite auparavant à la réalisation du film sur Chomsky et compagnie, avec le succès, grâce à vous, que vous savez. Alors, vous le savez bien sûr, les femmes coupées en morceaux intéressent les journaux, mais les journaux coupés en morceaux n'intéresse guère les femmes. C'est la loi de la presse. Et c'est de presse dont nous allons parler aujourd'hui, avec un livre très singulier signé Jean Stern, qui est un journaliste, et son bouquin s'intitule « Les patrons de la presse nationale, tous mauvais ». Alors, on va voir que Jean Stern est journaliste, il a travaillé à Libération, il a travaillé à La Tribune, et on a invité deux autres journalistes aussi, des gens du métier, de l'intérieur du métier. Jean-Michel Dumay, qui a longtemps travaillé au quotidien Le Monde et qui a été à la tête de la Société des rédacteurs du Monde longtemps, et Véronique Brocard, qui elle a longtemps travaillé à l'hebdomadaire Télérama et qui maintenant travaille à Ciné Mensuel. Donc des gens qui sont dans le bâtiment, qui sont dans le boulot depuis des années, de l'intérieur, et qui vont nous raconter beaucoup de choses sur la presse écrite, sur la presse nationale. Hein. Il y a la presse hebdomadaire, il y a la presse magazine, il y a la presse quotidienne, régionale, la PQR, et puis il y a la grande presse, la presse nationale. Et c'est celle-là qui décline en ce moment à toute vitesse. La presse, de façon générale, décline, mais spécialement la presse quotidienne, vous le savez, et notamment la presse nationale. Alors on trouve des tas de raisons à cela. Vous entendez très souvent des débats, c'est à cause de, etc., etc. Et là, j'en sais, on a trouvé d'autres raisons dont le titre suggère un petit peu les choses. Les patrons de la presse nationale, tous mauvais. C'est avec eux trois qu'on va passer cette heure. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Contre les massacres à Gaza, ce soir à 18h, rassemblement devant le ministère de la Justice à l'angle du numéro 1 de la rue de la Paix. Métro Opéra. Soyons très nombreux. Ce soir, 18h, au Métro Opéra.
Salut Daniel, salut les amis. Je vous passe un message réconfortant en cette période qui en manque. Disons même une bonne nouvelle. La justice vient à nouveau de renvoyer à leurs chères études les consorts Renault qui avaient le culot de demander à l'État les indemnités de la nationalisation sanction de l'entreprise en 1945, et donc aussi de réhabiliter le grand-père et pourquoi pas le patronat français de cette sinistre époque.
Bonjour, c'est le Café Repère de La Rochelle. Vendredi 23 novembre à 19h, le thème est sur le crédit facile, crédit tout de suite, envie ou besoin. L'intervention est de Michel Lecrève, suivi d'un débat. Rendez-vous de la Petite Marche, 4 rue des Trois Fuseaux.
Jean-Marie Arribé, dans l'Humanité de ce mercredi, relève un glissement dans les réseaux des agences de notation pour dégrader la note de la France. Après les déficits publics, donc la crédibilité de l'État vis-à-vis des créanciers, c'est l'insuffisante compétitivité, donc la situation économique du pays pris dans son ensemble, que sanctionnent les agences. Il faut dégrader plus pour gagner plus. Régis de Nîmes.
Jeudi 22 novembre à 20h30, au Zazoubar à Castres, un café repère autour d'une conférence gesticulée où on va se questionner sur le socialisme, social-démocratie, social-libéralisme, socialisme autoritaire, totalitaire, national-socialisme. Mon socialisme, première partie d'une conférence gesticulée d'un trentenaire génération Mitterrand, c'est jeudi soir au Zazoubar, place de l'Albenque à Castres. J'ajoute qu'on aura un avant-goût de la deuxième partie de cette conférence gesticulée, samedi 24 novembre à partir de 17h à Gaillac, salle Bouzinac pour l'Alter Festive. Conférence gesticulée, concert, conte, du manger et du boire bio. Bref, que demande le peuple? C'était Wilfried du Tarn.
Cet homme vient de s'acheter son journal.
France 2.
Cet homme, c'est Serge Dassault, le maire UMP de Corbeil-Essonne et troisième fortune de France.
24 juin 2004.
Le journal, c'est le Figaro, navire amiral d'un groupe de presse de 70 titres, dont l'Express et la Voix du Nord. Pour l'homme politique, c'est un moyen de faire passer ses idées.
Je veux que les gens qui parlent, ou les journalistes, aient peut-être un peu plus d'informations sur la réalité des choses.
Donc vous achetez les journalistes en quelque sorte?
Non, pourquoi? On peut en parler, c'est les convaincre.
Mais si vous n'y arrivez pas sans être propriétaire du groupe de presse, là vous essayez d'y arriver en étant propriétaire.
Bon, en n'étant pas propriétaire du groupe de presse, on ne peut rien faire. Hein. Bon, c'est pas se dire qu'on fera quelque chose en étant propriétaire, hein, parce que c'est très bien que les ventes sont difficiles.
S'acheter le Figaro, c'était un vieux rêve pour l'avionneur Dassault. C'est aussi un moyen de souffler le titre de premier patron de presse français à Arnaud Lagardère, le propriétaire, entre autres, de Paris Match, Elle ou du Journal du Dimanche. Rivaux dans la presse, mais aussi dans l'industrie, ce sont les deux premiers groupes d'armement français. Ce mélange des genres pose la question de la liberté de la presse face aux intérêts industriels. Près d'un titre sur trois vendu en France appartient soit à Dassault, soit à Lagardère.
Salut, c'est Daniel Mermès, là-bas si j'y suis, avec Jean Stern, Jean-Michel Dumay et Véronique Brocard. Les patrons de la presse nationale, tous mauvais. Voilà au moins un livre qui annonce la couleur. Les patrons de la presse nationale, tous mauvais. Voilà, on sait à quoi s'en tenir, on a déjà le sens du livre et la conclusion. Sur la couverture, où on lit le nom de l'auteur qui est Jean Stern et l'éditeur qui est La Fabrique. J'ai l'impression que tout ce livre peut tenir entre deux phrases. Jean Stern, qui me regarde un peu ébahi. Où va-t-il? Entre deux phrases. L'une que je trouve dans le programme du Conseil national de la Résistance de 1944, où je dis que les mesures à appliquer dès la libération du territoire seront, il y a tout un tas de mesures qui seront prises, et l'une consistera en la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances de l'argent et des influences étrangères. Oui. 1944. Et puis là, j'ai une autre phrase attribuée à un certain Xavier Niel, qui déclare un jour, quand les journalistes m'emmerdent, je prends une participation dans leur canard et après ils me foutent la paix. Oui. Il faut savoir que Xavier Niel est un acteur extrêmement important et qui fait partie de ces patrons de la presse nationale que vous considérez comme tous mauvais.
Absolument.
Et votre livre raconte un petit peu ce qui s'est passé au fond entre ces deux phrases.
Oui.
Entre ce que souhaitait le Conseil national de la Résistance et cette affirmation de M. Niel. Jean Stern, qu'on a commencé à entendre, n'est pas tout seul. Il y a avec lui Jean-Michel Dumay, qui est journaliste lui aussi, qui fut le président de la Société des rédacteurs du Monde, qui a joué un rôle important dans l'histoire de ce journal, dont il ne fait plus partie, il nous dira ce qui s'y est passé. Et puis il y a aussi Véronique Brocard, ex-Télérama, bonjour, et qui nous dira aussi comment elle a vécu et comment elle considère le titre qu'est le contenu du bouquin de Jean Stern. Véronique Brocard étant actuellement rédactrice au mensuel, ciné-mensuel. Alors, Jean Stern,
oui.
Alors, la première question que pose un vrai journaliste de radio en face d'un auteur, c'est pourquoi le titre ?
Alors, pourquoi le titre ? C'est très simple, c'est que je trouvais que cette histoire n'avait effectivement pas été racontée. C'est-à-dire que la presse est un objet très curieux, qui est très chroniqué, qui est très raconté. Il y a beaucoup de rubriques sur les médias, il y a beaucoup d'émissions sur les médias, il y a beaucoup de blogs sur les médias, il y a beaucoup de gens qui parlent des médias, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux médias, chez les politiques, évidemment, chez les acteurs économiques, évidemment. Et en même temps, je trouvais qu'on n'avait pas raconté cette histoire-là, prise précisément du point de vue de la propriété. Si on prend les journaux du point de vue de la propriété, l'évolution de la propriété des journaux depuis la Libération, on s'aperçoit qu'en gros, la presse est tombée ces 20 dernières années dans les mains des milliardaires. Et que ces milliardaires, ils sont mauvais d'un point de vue moral, parce que d'une certaine manière, ils ont détruit l'indépendance des journaux, ils ont détruit ce qui était les valeurs de résistance que vous avez cité, Daniel, au départ, c'est-à-dire une presse libérée des puissances d'argent qui a eu beaucoup de mal à la résistance, on y reviendra peut-être, mais enfin, c'était quand même l'objectif, hein. C'était de ne plus être cette presse pourrie, cette presse dépendante des puissances financières qu'on avait connue. Collabos, bien entendu, qu'on avait connue dans les années 20 et les 30. C'était aussi sortir d'un système dont Laval, qui était président du Conseil, était le héros parfait, puisque Laval était lui aussi un industriel de la presse, il avait un quotidien, et c'est lui qui met en place en 1942, pendant la guerre, le système des aides à la presse sur lequel nous vivons encore aujourd'hui. C'est-à-dire une espèce de co-gestion entre les patrons et l'État. Donc ils sont mauvais du point de vue moral, mais ils sont mauvais du point de vue technique aussi. En 20 ans, la presse quotidienne nationale française a perdu les deux tiers de ses lecteurs. Et donc, d'une certaine manière, en conquérant la presse, au lieu de la développer, les milliardaires lui ont serré le kiki. C'est-à-dire qu'ils lui ont enlevé des moyens, enlevé des équipes. Et donc, d'une certaine manière, ils ont mis les rédactions dans un piège dans lequel elles sont malheureusement tombées et sur lequel elles n'ont pas tout à fait réagi comme il aurait fallu qu'elles réagissent.
Donc voilà, pour vous, c'est les milliardaires. C'est la faute des milliardaires.
C'est en grande partie la faute des milliardaires, avec, je dirais, la complexité active qu'on pourrait qualifier d'incompétence de l'État, puisque l'État a toujours été incompétent sur les affaires de presse depuis maintenant la Libération.
Êtes-vous d'accord, Véronique Brocard, ex-Télérama, actuellement ciné ? Vous êtes d'accord avec tout de suite les milliardaires, c'est la faute du grand capital, quoi, en somme ?
Moi, je pense qu'on a loupé une véritable opportunité de hurler, de se faire entendre. Alors, c'est effectivement très difficile dans le contexte dans lequel les rédactions ont été plongées, mais je pense quand même on aurait pu dire les choses beaucoup plus fort. Et moi, j'appelle ça le syndrome de la grenouille.
C'est-à-dire
que vous plongez une grenouille dans l'eau bouillante, elle s'échappe de la casserole. Vous la plongez dans l'eau froide, vous faites chauffer, et bien la grenouille, elle se laisse cuire. Et je pense que les rédactions et les journaux ont eu le complexe de la grenouille, c'est-à-dire qu'ils se sont laissés cuire sans s'en rendre compte. Pourquoi ? Parce que vous passez petit à petit de renoncement en renoncement. Chaque renoncement n'est pas en soi la fin du monde, mais les renoncements accumulés font qu'un matin vous vous réveillez, il est trop tard.
Voilà qui lance Jean-Michel Dumay. Vous avez été président de la Société des rédacteurs du journal Le Monde. Vous avez mené une bagarre acharnée pendant des années. Vous êtes sorti du journal maintenant. Responsabilité, selon vous, des rédacteurs et des journalistes dans ce déclin de la presse ? Point d'interrogation.
Moi, je partage l'avis de Véronique Brocard, c'est-à-dire que c'est vrai que... Alors, à ceci près que je considère avoir été, avec quelques camarades, était l'une de ces grenouilles qui essayait de sortir de la casserole quand il était encore temps. Globalement, en tant que collectivité, on a mis du temps à se réveiller. On a mis du temps à voir... Enfin, je parle pour Le Monde, hein. Je peux difficilement incriminer d'autres rédactions, mais au Monde, c'est vrai qu'on n'a pas vu passer les trains de l'Internet, de la baisse du marché publicitaire, de la montée de la gratuité dans les journaux. Plein de choses qui ont été difficilement appréhendables par les journalistes.
Quand le soleil est sage, il nous faut des orages, du sang, des sensations et des superstitions. Dans les hebdomadaires, vivants mais légendaires, renaissent les héros des contes de Perrault. Le monde est un spectacle, il nous faut des miracles, des meurtres, des amants et des enterrements. Chantons les marionnettes, les princes des manchettes, que l'on anobliera grâce à la caméra. Tournez, tournez, rotative. pour les âmes sensitives. À tout cœur et à tout sang, à la prochaine je descends. Le métro chante sa chanson grise. Je n'ai pas trouvé de place assise. Il me faut pour tenir le coup une histoire à dormir debout. La commère bavarde, mais c'est Scheherazade. Nous sommes tous autant, c'est lecteur, c'est sultan. Qui a le vent en poupe, c'est Riquet à la houppe. Qui malgré sa laideur en amour est vainqueur. C'est dans une clinique que la quenouille pique. La belle au bois dormant boit des médicaments. Ou bien c'est pas de chance, elle attend la naissance d'un rejeton royal pourvu qu'il soit normal. Et lorsque le sang coule sur les fous, sur les foules, s'il va du bon côté, ça peut se raconter. Mais s'il peut faire tâche, de grâce qu'on le cache sous la soie des papiers des mariages princiers. Si les sorciers nous mentent et si la vie augmente, pourquoi crier à bas marquis de Carabas? Puisqu'à toutes les pages de nos revues d'images, pour nous réconforter, il y a ces chats beautés. Tournez, tournez, rotative.
Alors, Jean Stern, on va en venir à ces épouvantables patrons. Mais je voudrais bien qu'on évoque d'autres responsabilités. Vous allez me dire pourquoi et dans quelle mesure il y a responsabilité de la presse gratuite, d'Internet, de l'État. Internet, par exemple. Est-ce que ce n'est pas un concurrent énorme ?
Ne soyons pas naïfs. Évidemment, le paysage des médias a changé entre 1944 et 2002, et évidemment 2012. Il y a eu des évolutions, et il y a eu des évolutions dans lesquelles une partie de la presse mondiale a su se positionner, et une autre partie n'a pas su se positionner. L'affaire d'Internet et du gratuit est particulièrement intéressante. La presse gratuite a pris en France 24% du marché des quotidiens en 10 ans. Ça veut dire aussi que les quotidiens n'ont pas su évoluer sur les contenus. Mais ça veut dire surtout que les quotidiens ont cru, gratuit comme payant, que le modèle unique de développement, c'était la publicité, et que donc on pouvait s'appuyer sur la publicité pour faire de la presse. En réalité, rien n'est plus faux. Quand la crise arrive, et la crise arrive en ce moment, et elle est violente par exemple en Espagne, où le tirage des journaux gratuits sont passés en 3 ans de 6 millions d'exemplaires à 1 million d'exemplaires. Donc on voit bien que la gratuité n'est pas un modèle. Pareil pour Internet, on ne peut pas produire de l'information gratuite. Tant qu'on produit de l'information gratuite, on, d'une certaine manière, oblitère son développement. Qu'est-ce qui s'est passé dans d'autres quotidiens étrangers, dans des quotidiens américains ou dans des quotidiens britanniques par exemple ? On peut mettre en cause la propriété, mais on peut mettre aussi, surtout en cause, la manière dont la propriété influe sur les contenus. Dans les médias anglo-saxons, les propriétaires, qui ne sont pas des anges, hein, qui sont des capitalistes comme les Français, sauf que c'est des capitalistes du secteur des médias, et non pas du secteur hors médias comme nos capitalistes français qui ont fait leur fortune ailleurs.
Murdoch, il ne fait que de la presse.
La famille propriétaire du New York Times, elle ne fait que de la presse. Et malgré tout, ces gens-là ont continué à investir dans la presse, et notamment en investissant dans les contenus. Les contenus, bah, c'est des journalistes derrière. C'est des hommes et des femmes qui produisent de l'information et qui ont besoin pour ça de moyens. On ne peut pas faire un bon reportage dans certains pays en 2 jours, en 3 jours, vous le savez bien. Il faut passer du temps, il faut avoir des correspondants sur place, il faut avoir des envoyés spéciaux, il faut avoir le moyen de travailler, il faut avoir de la pagination pour développer des sujets. Qu'est-ce qu'on nous impose aujourd'hui dans nos quotidiens ? Des suppléments luxueux. Vous prenez Obsession, diffusé avec le Nouvel Obs, vous prenez Next, diffusé avec Libération, vous prenez une partie de M, le magazine, diffusé avec Le Monde, je vous les mets devant vous à l'aveugle, vous ne les reconnaissez pas. C'est des contenus uniques, qui sont des contenus en gros sur les sacs à main qui sont en gros produits par les propriétaires des journaux eux-mêmes. Donc on est dans un espèce de cercle vicieux où la publicité sert le contenu, qui sert les propriétaires, qui sert le contenu, etc. etc., etc. Évidemment, c'est plus amusant, on peut le considérer, de parler des sacs à main que de parler du Mexique, par exemple. Mais en même temps, bah, c'est pas du journalisme de parler des sacs à main.
Alors, le rôle de l'État là-dedans, le rôle des gouvernements successifs, si on s'accorde pour faire commencer cette histoire à la Libération ?
Ben, le rôle de l'État, il est particulièrement intéressant, puisque l'État à la Libération, en gros, nationalise l'ensemble des équipements de presse, c'est-à-dire les imprimeries, les immeubles des journaux, même les camions qui servent à la distribution, essaye de construire un nouveau système de distribution en échappant à la librairie Hachette, qui avait largement collaboré et qui donc avait sombré dans une page grise de l'histoire de France, voire noire. Et en même temps, on donne ça au Parti communiste à l'époque, qui gère évidemment très mal, puisqu'il se sert des messageries pour faire employer son service d'ordre, en gros. Et donc, bah, du coup, on se retrouve dans une situation extrêmement complexe, où d'un côté, vous avez le Parti communiste qui gère la partie technique de la fabrication des journaux, les imprimeries, la distribution, et de l'autre côté, les rédactions sont prises en main par les gaullistes. C'est-à-dire que ça soit les journaux populaires, type François, ou que ça soit les journaux de qualité, type Le Monde ou Le Figaro, les gaullistes incarnent tout ça. L'État, lui, se contente, à ce moment-là, de recéder les biens aux journaux, les biens nationalisés, à partir de 1954, et de les vendre aux journaux. Et il va contribuer, ces journaux viennent de la Résistance, pour certains, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ça, ça va contribuer à les endetter. Et donc, au lieu de donner des moyens aux journaux, on va leur donner des dettes. Et dès les années 50, les journaux vont être endettés. L'État, lui, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire les fins de mois. Et petit à petit, le patronat de presse va s'installer dans une espèce de système où chaque année, on va mendier de l'argent pour ci, de l'argent pour ça, de l'argent pour la distribution, de l'argent pour l'impression, de l'argent pour ceci, de l'argent pour cela. Aujourd'hui, de l'argent pour Internet. C'est quand même hallucinant de voir qu'aujourd'hui, on donne des subventions à des journaux comme Le Point pour faire des services Internet en ligne. C'est quand même totalement fascinant. Le Point qui appartient à Pinault. De quel droit l'État fait ça?
Jean Stern, dans votre bouquin, je rappelle le titre, « Les patrons de la presse nationale, tous mauvais ». Vous dites que ça a commencé il y a 20 ans, ce déclin. Alors là, c'est vraiment le toboggan, là. On est dans le toboggan. Pourquoi auparavant, qu'est-ce qui se passait? C'était l'époque, l'âge d'or de la pub.
Auparavant,
tous les journaux, journaux étaient des sacs à pub, on appelait ça des sacs à pub.
Il s'est passé deux choses. D'abord, il s'est passé mai 68. Et mai 68 a consacré, d'une certaine manière, la mort d'une vieille presse, mais aussi a permis à une nouvelle presse d'apparaître. Et donc, si vous voulez, ce premier phénomène a fait que des nouveaux journaux sont apparus dans les années 70, Libération, Le Matin de Paris, d'autres encore, au même moment où d'autres journaux se cassaient complètement la figure, comme Paris Jour, comme Le Parisien Libéré, comme Combat, etc. Donc on a eu une espèce de vision d'optique. Deuxièmement, et surtout, il y a eu un développement énorme de la publicité dans les années 70 et dans les années 80. C'était l'époque de l'argent roi. Mitterrand incarne très très bien ça, d'une certaine manière. Et Robert Hersant avec son Figaro Magazine aussi. Et en même temps, ces deux faces-là font que nous, on en a profité, les journalistes, c'est vrai, puisque grâce à cet argent de la publicité, Le Monde, à l'époque, Libération, où on était, Véronique et moi-même, on avait des moyens pour travailler, des moyens beaucoup
plus importants. Est-ce que les contenus étaient meilleurs?
Ah oui, je pense que les contenus étaient meilleurs,
bien entendu. Ah ben complètement, oui, parce que d'abord, on avait le temps de choisir ces sujets, on avait le temps de les réaliser, on avait une liberté quand même qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, et pas tant parce qu'il y a une influence directe des intérêts des propriétaires des journaux, c'est quand vous avez une rédaction exsangue, vous n'avez plus de moyens, ni de moyens de vous développer, ni moyens d'enquêter, ni moyens de partir en reportage, du coup vous payez moins les transports, vous acceptez des voyages de presse, enfin vous êtes grignoté de partout, qui fait que forcément le contenu est beaucoup moins bon.
Comme chaque jour, c'est ici, au 125 avenue Idéfix de Grosville, que Sébastien Blatre se rend pour y exercer un métier dont il se flatte.
Journaliste.
9h, après la lecture du journal du jour, Sébastien s'attelle à sa tâche quotidienne, trouver un sujet percutant.
Je décortique les nouvelles du monde à l'affût du scoop. Ça, c'est mon côté Joseph Kessel, explorateur.
10h15, Sébastien a son sujet, c'est l'affaire Exclusif Knife.
Il y a une grosse banque grolandaise qui a commis des irrégularités sur le rachat d'une boîte américaine. C'est une vraie bombe. Ça, c'est mon côté Jean-François Kahn. Rentre dedans.
11h20, petit problème. Sébastien découvre que la filiale qui couvre la banque est détenue par François Porto-Maubeuge, qui se trouve être également le patron des éditions rotatives qui publie Le Grolandais. En clair, si Sébastien révèle que le contribuable va devoir rembourser la fortune que son patron s'est faite irrégulièrement, déontologiquement, c'est du journalisme, mais pragmatiquement, c'est la porte. 11h23, tout bien pesé, finalement la bombe restera à retardement.
Moi, personnellement, mon modèle, c'est Jean-Pierre Pernaut. Je pars du néant pour arriver à rien.
Alors, venons-en à ceux qui sont la cible du bouquin de Jean Stern, c'est-à-dire ses patrons de la presse nationale. Alors, on les connaît, leur nom, c'est Bernard Arnault, c'est Mathieu Pigas, c'est Pierre Berger, c'est Édouard de Rothschild pour Libération, c'est Vincent Bolloré, c'est Bernard Pinault, c'est Arnaud Lagardère, c'est Serge Dassault, etc. Il y en a encore quelques autres, mais pas tellement. Je crois les avoir à peu près cités.
Absolument.
Qui sont des gens qui sont dans le luxe, dans les armes, dans un certain nombre d'activités, parfois plusieurs activités tout seuls.
Non, c'est assez simple en réalité. Ils sont dans le luxe, dans l'armement, ils sont dans la banque et ils sont dans Internet. Voilà, c'est ces quatre secteurs et vous avez tous ces milliardaires. Alors effectivement, quand vous prenez quelqu'un comme Xavier Niel, il est dans Internet, il doit sa fortune au web. Le génie de Xavier Niel est évidemment d'avoir construit un empire à partir de ça et d'avoir compris que les journaux étaient des parts de son empire. Et aujourd'hui, évidemment, on n'en est qu'au début. Xavier Niel vient de prendre le contrôle du monde, c'est il y a 2 ans. Qu'est-ce que sera le monde dans 10 ans quand Xavier Niel aura besoin, d'une certaine manière, de producteurs de contenu pour alimenter son activité Internet et mobile maintenant?
Xavier Niel, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Vous êtes le fondateur de Free, le copropriétaire du Monde, bientôt actionnaire de beaucoup de sociétés, à la fois start-up, dans la presse. Et là, on vous retrouve avec quelques grands patrons, donc Mathieu Pigas de la Banque Lazare, François-Henri Pinault de PPR et Pascal Ouzelot sur un projet de chaîne de la TNT. Vous l'avez déposé au CSA, le dossier sera examiné. C'est une chaîne qui s'appelle T'es-vous. Vous avez quelle espérance dans cette chaîne?
Mon sujet personnel, c'est toujours la même chose, c'est d'aider des médias indépendants à exister afin de voir des problèmes que vous évoquiez tout à l'heure. Donc on a besoin d'une presse indépendante dans ce pays.
C'est pour ça que vous investissez dans plusieurs petits sites.
Voilà, toujours sans en avoir le contrôle, toujours en étant minoritaire et toujours en essayant de ne pas s'occuper d'autre chose que d'apporter de l'argent et d'essayer d'avoir une gestion à peu près convenable.
Alors un investissement qui n'est pas passé inaperçu parce qu'il était majeur et structurant, c'est celui que vous avez fait dans Le Monde aux côtés de Pierre Berger et toujours de Mathieu Pigas. Donc vous venez d'expliquer que vous aimez investir dans les médias pour qu'ils restent indépendants. Il y a quand même une notion de pouvoir, non? Vous aimeriez avoir un peu de pouvoir.
Alors écoutez, au Monde, je pense que si vous souhaitez avoir du pouvoir, le seul journal où il faut déconseiller à des gens d'investir, c'est Le Monde, puisque vous avez des journalistes qui ont une indépendance la plus totale et qui, je pense, par essence même, par fonctionnement même, n'aiment pas spécialement leur actionnaire qui risquerait ou pourrait leur imposer quelque chose. Donc on a cette énorme chance en face, c'est que les journalistes du Monde font très attention à ça et qu'à ce jour, il n'y a pas eu de problème entre l'actionnariat et l'éditorial. Je vous rappelle qu'il y a un pacte qui existe et ce pacte laisse la plus entière liberté.
Mais je ne pensais pas une seconde sur le fait que vous puissiez appuyer sur l'indexion, avoir un quelconque pouvoir sur l'indexion, mais vis-à-vis du reste du monde des affaires, ça fait un peu chic d'être actionnaire du Monde.
Je pense que c'est une pseudo-puissance perçue et en rien une réalité. Vous êtes actionnaire, vous couvrez les pertes. Au Monde, le Monde est revenu très légèrement à l'équilibre. C'est bien. Donc c'est plutôt ça notre vrai sujet. Le reste derrière, c'est un pouvoir supposé, mais on n'a strictement aucun pouvoir.
La question qu'on se pose, c'est pourquoi tous ces gens s'emmerdent-ils à acheter des journaux dont certains sont déficitaires? En quoi est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans?
Il y a 2 choses. Je me suis vraiment, très honnêtement, posé longtemps la question. Je me suis dit, mais à quoi ça leur apporte? Et puis, il se trouve que j'ai travaillé après Libération à La Tribune, et je suis arrivé à La Tribune quelques mois après la prise de contrôle de La Tribune par Bernard Arnault et LVMH. Et un an ou deux après, il y a eu la bataille boursière, qui a duré plusieurs années, entre Bernard Arnault et François Pinault, et pour le contrôle de Gucci et de Saint-Laurent. Et j'ai vu que les hommes d'Arnault, par Arnault lui-même, il est d'ailleurs jamais venu à la rédaction, il est jamais venu aux Échos, il est jamais venu à La Tribune, on le connaît pas, on l'a jamais vu, mais ces hommes, ces agents d'influence, ces conseillers en communication, c'est tout ce système dans lequel vivent ces grands patrons aujourd'hui, et ben ces hommes-là faisaient passer des messages insidieux à la rédaction, tentaient d'influencer évidemment les directeurs de la rédaction, se faisaient parfois relire certains papiers avant publication, relire et donc censurer, auto-censurer, on n'en sait rien, mais c'était tout un petit système comme ça. Donc c'est de l'influence. C'est de l'influence moins directe, au fond. Bernard Arnault ne va pas convertir tous les Français au charme de l'entreprise privée. Il s'y essaye, il s'y active, mais il n'y arrivera pas. C'est de l'influence en termes de neutralisation. Pour Bernard Arnault, posséder aujourd'hui Les échos est une arme très importante contre ses rivaux en affaires, qui sont évidemment principalement François Pinault.
Et personne aux échos va oser écrire un papier contre,
Regardez,
on ne mange pas la main, vous ne mangez pas la main qui vous nourrit.
Daniel, regardez un exemple très récent et d'une certaine manière très amusant du point de vue du journalisme. Libération fait sa une il y a quelques semaines sur Bernard Arnault et titre « Cache-toi, riche con ». Bon. Très bien, ça fait du buzz, tout le monde en parle, c'est bien, c'est pas bien, on a tort, on a raison, etc. etc. C'est pas le débat. Le débat, il est de deux ordres. Quelle est la réalité de la situation fiscale de Bernard Arnault en Belgique? Eh bien, il faut lire un journal belge qui s'appelle L'Écho, c'est une coïncidence, et qui révèle que Bernard Arnault vers une fondation de droit privé en Belgique, qu'il a déjà 12 holdings, pas une, pas deux, 12 holdings en Belgique. Pourquoi faire? Évidemment, pour faire glisser son patrimoine de la France à la Belgique. Et les Échos, qui est le journal économique, qui devrait normalement enquêter là-dessus, eh bien, il n'enquête pas. Quant à la pauvre Tribune, ben Bernard Arnault l'a laissé tomber comme une vieille chaussette, elle en est morte. Aujourd'hui, elle n'a plus qu'un site internet avec quelques journalistes qui font 3 ou 4 papiers par jour et qui donc, évidemment, n'ont pas les moyens d'aller à Bruxelles pour enquêter sur les holdings de M. Arnault. Donc, on parle de la une de Libé, qui n'est qu'un épiphénomène, et on ne parle pas de la réalité de la situation fiscale et patrimoniale de la famille Arnault en Belgique. Si vous voulez, c'est très symbolique. C'est-à-dire qu'au fond, ces gens-là, ils sont, et c'est le capitalisme français qui est comme ça aujourd'hui, ils sont dans le pouvoir du pognon. Et ils emploient d'ailleurs le mot pognon. Hein. Ils ne parlent pas d'argent, ils parlent de pognon. Et ça, je crois que c'est quand même un peu triste que la presse française, auquel on a cru, en tout cas auquel moi j'ai cru, soit tombée dans cette espèce de système-là.
Voilà, en 20 ans... La presse nationale française a perdu 2/3 de ses lecteurs. Vous le savez, on cherche toujours les raisons, on s'interroge. Ça ne veut pas dire du tout que l'ensemble des médias soit naufragé ou soit dans le déclin. La radio en France, par exemple, se porte bien. C'est surtout cette séquence des médias, cette partie des médias, qui est la presse nationale, avec son prestige, avec sa capacité extraordinaire d'influence, qui est dans cette situation, et Jean Stern, vous avez compris, s'est penché sur cette histoire, mais en journaliste qu'il est, avec son bouquin « Les patrons de la presse nationale, tous mauvais », c'est le titre du livre, qui a assez peu de chances d'être commenté dans toute la presse aujourd'hui, pour les raisons qui sont inscrites dans le titre lui-même.
Dans son bouquin, Jean Stern met un personnage entre cet épouvantable patron de presse, qui est mauvais, hein, selon toujours Jean Stern, et la rédaction, les journalistes, c'est ce qu'il appelle le journaliste manager. Ces gens qui sont des journalistes et qui disent un jour « Moi, je vais aller chercher des sous, vous allez voir, et on va faire marcher le journal comme ça. » Et qui, finalement, s'y font prendre. C'est ce contre quoi... vous et la société des rédacteurs du Monde, vous vous êtes heurtés et castagnés.
Oui, on a... Alors, si on prend l'histoire du Monde, vous aviez, par exemple, Jean-Marie Colombani a effectué 2 mandats, un mandat qui était extrêmement positif. On avait fait venir à l'époque... Enfin, moi, je suis rentré en 1985 au Monde, Alain Minc, qui est un personnage... dans l'ombre et haut en couleur en même temps, qui avait ouvert son carnet d'adresses. Donc plein de gens sont venus mettre de l'argent, un peu comme des mécènes, plein de capitalistes sont venus mettre de l'argent avec leur société. Le problème, c'est que quand les choses ont tourné vinaigre à partir des années 2000, pour se sauver, le Monde a essayé de développer ce qui était pas mal sur le plan stratégique, comme on dirait une stratégie de développement externe, donc en rachetant des propriétés à l'extérieur, mais qu'en fait, on n'avait pas les moyens de notre ambition, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a manqué d'argent. Donc il y avait un problème sur la stratégie qui était menée. Les patrons en question se sont peut-être grisés plutôt que de garder des petites entreprises de presse, rester un peu dans un domaine presque artisanal, avec des valeurs, avec un attachement aux origines, en l'occurrence le fondateur Hubert Boeuf-Méru, qui lui disait, pardon d'être un peu vulgaire, mais enfin je préférais crever que de vendre mon journal à des puissances d'argent.
Bon, et qui éteignait la lumière dans les
partant,
couloirs,
oui,
dans les
ça,
en partant.
Ça, je l'ai vu, j'ai eu la chance de le voir dans les années 80, oui, justement, oui, qui avait le souci de l'économie. On est parti dans des folies des grandeurs, avec des locaux surdimensionnés, des loyers incroyables, des salaires aussi, parce que c'est quelque chose dont personne ne parle, mais enfin quand même ces journalistes managers, à un moment donné, ont perdu le sens du raisonnable, c'est-à-dire qu'on était sur des membres de directoire payés 400 000 euros annuels. Un jour, un directeur général du groupe Le Monde est parti avec 1,3 million d'euros. Je m'en souviens très bien, puisqu'à l'époque, j'étais chef d'un service et je devais étaler sur 3 ans 150 euros d'augmentation pour mes journalistes. 50 euros par... Voilà. Dans le même temps, le directeur général partait avec 1,3 million d'euros.
Et on... Qui était resté par ailleurs 6 mois, ce directeur
général. Qui était resté 6 mois à la direction générale de
l'Europe. Mais Colombani est parti avec 1 million d'euros.
1 million d'euros, oui.
Ouais, absolument. Voilà. Et il avait 400 000.
Qui était le coût de la belle façade que nous avions eue au boulevard Blanqui. Enfin, c'était la folie des grandeurs, voilà.
Lorsque vous avez créé ce journal en 1944, que vouliez-vous faire ?
Avant tout, un journal indépendant.
Hubert Boeuf-Méry, fondateur du journal Le Monde.
Qui ne doivent rien à personne. Ni à l'État, ni aux puissances d'argent, ni aux puissances constituées, que ce soit des églises, des syndicats, ou ce qu'on voudra, un journal qui puisse vraiment n'avoir aucune espèce de fil à la patte.
Cette indépendance de votre journal, comment l'avez-vous acquise ? Car au départ, le journal a été créé par le général de Gaulle, donc vous n'avez pas eu beaucoup d'égards pour lui.
Entre avoir des égards et être... aux écoutes et à la remorque et aux ordres, c'est autre chose. Mais évidemment, je ne voulais ni ne pouvais être aux ordres. Il le savait et il avait accepté.
Avez-vous eu à subir des reproches ?
Surtout à ce moment-là, vous devez vous en souvenir, ça n'a pas duré longtemps. Il a assez vite quitté le pouvoir. Mais lorsqu'il y est revenu, dans la période de ce que j'ai appelé après ces 11 ans de règne, de 58 à la fin, évidemment, il y a eu souvent des mouvements d'humeur qui s'exprimaient d'ailleurs à une occasion ou une autre, à l'extérieur, à l'intérieur, dans une conférence de presse, beaucoup plus que dans un tête-à-tête, ce qui s'est quand même produit quelques fois.
L'une des manœuvres du Monde à l'époque a été d'acheter Télérama.
On a parlé tout à l'heure des causes exogènes de la difficulté de la presse française, c'est-à-dire l'Internet, l'incapacité d'avoir une stratégie par rapport au gratuit, etc. Moi, je pense qu'il faut aussi mettre en cause de façon extrêmement claire les causes endogènes qui sont que les patrons qui ont dirigé certains journaux, pas tous, hein, en tous les cas, ceux que j'ai vus de près, ont coulé leurs propres journaux. Parce que pourquoi est-ce que le Monde achète Télérama ? C'est pas parce que Télérama les intéresse à l'époque. Télérama, ils s'en cognent, mais vraiment, très fort. Ils les intéressent parce qu'il y avait 43 millions de trésorerie en banque. Puisque Télérama et la vie étaient gérés en bon père de famille par plusieurs familles, des privés qui ne voulaient pas faire n'importe quoi, donc qui terrorisaient, exactement.
C'est bien de...
Terrorisaient,
oui, mais
je sais pas.
C'est un très beau lapsus.
Terrorisaient,
voilà. Peuvent pas être foncièrement mauvais.
Bon. Il y avait donc ces 43 millions de trésorerie, il y avait 2 immeubles, il y avait la librairie La Procure. Mmh. Bref, en quelques années, le Monde a pris 60 millions d'euros à Télérama, ce qui avait été vécu comme une grande violence, parce que nous n'avions plus de fonds propres, puisqu'on ne pouvait plus acheter un trombone sans demander l'autorisation à la maison mère. 60 millions qui n'ont servi à quoi ? À rien, en fait. À faire survivre le Monde, à payer les gros salaires du Monde, à payer des problèmes de stratégie du Monde, à faire vivre le Monde. Et quand on disait Vachelet, c'était vraiment l'exemple. Preuve encore que la stratégie de ces patrons-là était extrêmement mauvaise, parce que quelques années après, les caisses étaient déjà à nouveau vides, la trésorerie était en rouge absolument partout. Ils ont fait encore mieux que ça, c'est que non seulement ils ont dépecé Télérama, mais ils l'ont mis au clou. C'est-à-dire qu'ils ont fait un emprunt de 25 millions d'euros pour passer les quelques mois de survie du Monde contre Télérama. C'est-à-dire qu'on était avec la grande question, vu la dégringolade de la trésorerie du Monde, est-ce que le Monde pourrait encore rembourser ces 25 millions qui étaient mis sous la gorge par la BNP ? D'où on comprend après l'arrivée de Niel, Pigas, Berger, etc., l'obligation de vendre. Après, ils se sont rentrés dans une logique de dépenses et d'erreurs stratégiques telles qu'ils ont été obligés de vendre quand même le journal Le Monde et tous les groupes qui allaient avec, c'est-à-dire Télérama, La Vie, Le Courrier, etc., etc.
Comment ça se vivait à l'intérieur des rédactions, à l'intérieur des sociétés des rédacteurs, la société des rédacteurs du Monde, ou vous, à Télérama, vous vous êtes laissé tondre comme ça, vous avez laissé faire, je sais que Dumay s'est battu, mais les autres...
C'est vrai que nous avons vu des avions passer ou des trains passer et sans trop réagir au début des années 2000. Puis progressivement, on s'est rendu compte que quelque chose ne tournait pas rond. Et donc, il se trouve qu'au Monde, nous avions encore des pouvoirs, une sorte d'arme atomique de dissuasion nucléaire qui était le droit de veto sur la nomination du patron. Mmh. Mais qu'en même temps, qui était à double tranchant, si vous voulez. C'est que nous avions le pouvoir de dire non à la nomination de notre patron. Et du coup, notre patron, s'il voulait faire carrière et rester dirigeant, il était évident qu'il n'était pas amené à prendre des mesures qui s'imposaient. Il y a des mesures structurelles qui s'imposaient. La rédaction était bien trop nombreuse à un moment donné. Il fallait prévoir des plans sociaux. C'est évident que ça n'incite pas, lorsque vous avez un droit de veto, le patron à venir vous présenter juste avant son élection, un plan de restructuration. Mais nous nous sommes quand même préoccupés de ces questions-là, notamment de la stratégie qui était menée, qui était une sorte de course en avant au développement extérieur. Donc, à l'époque, Alain Minc et Jean-Marie Colombani voulaient qu'on rachète aussi les journaux, au-delà des journaux du Midi Libre, il fallait racheter Nice Matin, La Provence, Corse Matin, Var Matin, etc. Bon. Et donc, nous avons souhaité mettre un holà à cette fuite en avant, et aussi un holà, comme je vous le disais, à cette folie des grandeurs, puisque finalement, le salaire des dirigeants ou des journalistes qui étaient devenus dirigeants allait de pair avec l'augmentation du périmètre du groupe, même si le groupe ne faisait pas de bénéfices. Donc, on a souhaité dire non. Le problème qui s'est passé pour Le Monde, c'est qu'il y avait une déconnexion totale des droits politiques que nous détenions, donc le fameux droit de dire non à la nomination de patron, droit de veto que nous avons exercé, puisque nous avons écarté Jean-Marie Colombani de la direction, un écart, donc, disais-je, entre les droits politiques et les droits économiques, c'est qu'on n'était plus propriétaire de grand-chose, et surtout, nous n'avions pas d'argent pour réinjecter dans le capital.
Dans quelle mesure ces histoires influent sur le contenu ?
Elles influent de manière très importante. Jean Stern. Elles influent de manière très importante. Parce que si vous voulez, si on prend l'exemple de Dumay et de Beffa, c'est quand même extrêmement intéressant de voir que c'est un grand patron du CAC 40 français qui a eu la peau d'un journaliste qui a essayé de se battre et qu'en gros, tout le monde a essayé de faire passer pour un dingue. Jean-Louis Beffa, qui limoge Jean-Michel Dumay, qui l'oblige à signer son départ avec des pressions qui sont des pressions très fortes, personnelles. Ce type-là, à l'époque, il est patron de Saint-Gobain. À l'époque, il gagne 7 millions d'euros par an. Et aujourd'hui, il est directeur pour l'Asie de la Banque Lazare, qui elle-même contrôle directement ou indirectement, le débat est ouvert, Le Monde. Donc, si vous voulez, c'est pas totalement anodin, ça, quand même. Télérama, c'est la même histoire. Les gens de Télérama que Véronique, ici, a représentés, d'une certaine manière, on les a mis au pied du mur sans arrêt. C'est-à-dire, en gros, vous avez pas le choix, les gars. C'est ça où vous allez crever. Et donc, cette pression insidieuse qui fait que dans un contexte économique difficile, la presse est quand même globalement un secteur sinistré pour toutes sortes de raisons. Et là, évidemment, aujourd'hui, c'est difficile de trouver du boulot. Donc on se dit, peut-être il faut mieux accepter.
Ça rend docile.
Ça rend un peu docile, ça rend un peu indifférent. Ça rend... D'autant plus qu'on a été indifférent, comme je disais tout à l'heure, depuis le milieu des années 80. Donc on a continué à être indifférent. On dit souvent, on aurait dû réagir plus tôt.
Il y a la tellement... stratégie de la grenouille.
Voilà la stratégie de la grenouille.
Alors là, on arrive maintenant à ce qui est la surprise un peu du bouquin de Jean Stern, dont je rappelle le titre, Les patrons de la presse nationale, tous mauvais, édition La Fabrique. On arrive à une trouvaille de Jean Stern qui est sur les d'autres raisons qu'ont ces patrons acheter ces journaux, parce qu'après tout, ils achètent des journaux qui déclinent. Vous mettez en lumière une raison, qui est que ça rapporte d'acheter un journal qui décline, parce que, par tout un jeu d'écriture, de holding, de plomberie financière, ça revient à ce que cet achat constitue une niche fiscale et que ce soit rentable. Ça a un peu étonné tout le monde, votre travail.
Oui, parce qu'elle est là, en fait. C'est pas le fonctionnement spécifique de la presse. Là, c'est le fonctionnement, pour le coup, du capitalisme français et même européen. Il y a un type de société, une manière de faire des sociétés qu'on appelle la holding, qui a pris le dessus. En gros, les grands introducteurs en France des holdings, c'est tous les amateurs de capitalisme financier qui ont émergé dans les années 80, c'est-à-dire Pinault, c'est-à-dire Arnault, c'est-à-dire Bolloré. Le système de holding est très simple.
Vous êtes une holding, vous avez des filiales, certaines gagnent de l'argent, d'autres perdent de l'argent, et vous faites ce qu'on appelle la défiscalisation. Ils appellent ça encore plus joliment que la défiscalisation, puis ils appellent ça de l'optimisation fiscale. Donc je fais de l'optimisation fiscale. Donc non seulement je prends le contrôle des journaux, mais en plus les pertes éventuelles des journaux vont me permettre de déduire mes bénéfices considérables. Alors, on peut m'objecter que, évidemment, les pertes de journaux sont une goutte d'eau par rapport aux bénéfices. C'est en partie vrai. Le groupe LVMH de Bernard Arnault a fait l'année dernière 3 milliards de bénéfices. Les pertes des échos sont à peu près de 30 ou 35 millions d'euros. Donc, vous voyez, c'est une petite goutte d'eau. Ça, c'est intéressant parce que, si vous voulez, ça montre le cynisme absolu du système, en réalité. C'est-à-dire que ces propriétaires-là, ils n'aiment pas les journaux. Ils n'aiment pas les journalistes. Ils les détestent même. Et d'une certaine manière, non seulement ils en profitent fiscalement, mais ils leur ont serré le kiki. Moi, je l'ai vécu à la Tribune. Véronique l'a vécu à Télérama. Jean-Michel Dumay l'a vécu au Monde et tout. On a tous vécu ce moment où on avait de moins en moins de moyens pour produire l'information. Et c'est très concret, de moins en moins de moyens. Moi, je l'ai vu à la Tribune en particulier, où quand les journalistes commencent à faire 2 papiers par jour, bah, c'est terminé. C'est-à-dire que là, on peut baisser le rideau, parce qu'effectivement, on fait des moins bons papiers, on enquête moins, etc. Donc, si vous voulez, à la fois, ils ont fait un discours très hypocrite, on est défenseur de la démocratie, en réalité, pour leur bénéfice et pour leur double bénéfice. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas investi, contrairement à d'autres secteurs économiques. Après tout, Bernard Arnault, quand il rachète Dior, il investit dans Dior. Mmh. Il engage des stylistes, il rénove les boutiques, il fait les tournées des usines et tout. Quand il rachète la Tribune, il n'engage pas de journalistes, il ne rajoute pas des pages, etc. Quand il rachète les Échos, non seulement il n'engage pas de journalistes, mais il en fait partir. Mmh. Les Échos ont perdu pratiquement, depuis le rachat de Bernard Arnault, la moitié de ses journalistes. Et dans le secteur de crise aujourd'hui, il y a un nouveau plan de départ volontaire qui s'est fait aux Échos, là, cette année. Ils voulaient 55 départs. Ils en ont eu plus de 80. Ce qui prouve bien que les gens ne sont pas heureux à travailler aux Échos aujourd'hui, alors que Bernard Arnault, théoriquement, devrait donner tous ses moyens, il devrait avoir des tonnes de pages, des tonnes d'enquêtes, etc. Rien n'est plus faux. Donc voilà, ils sont dans un piège, on est dans un corner, pour leur plus grand bénéfice.
C'était en juin dernier. Serge Dassault venait d'acquérir plus de 80% des parts de la Soc Presse.
Soir 3.
Une société qui édite l'Express, l'Expansion.
29 septembre 2004.
Plusieurs quotidiens régionaux, mais surtout Le Figaro, navire amiral du groupe. Serge Dassault rejoignait ainsi le petit cercle des grands propriétaires de presse où se trouvait déjà Arnaud Lagardère, le premier éditeur de presse magazine au monde, avec Hachette Philippe Aki Média. Mais ce matin, un nouveau nom s'est ajouté à la liste, celui d'Edouard de Rothschild, le président de France Gallo, la société qui organise les courses de Gallo en France. Dans les colonnes du Figaro et de la Tribune, il se déclare prêt à investir dans le quotidien Libération. Il succède ainsi à Vincent Bolloré, qui le 16 novembre dernier, dans un journal économique italien, révélait déjà son intérêt pour ce même journal. L'homme d'affaires breton qui gère un empire allant des transports maritimes à la publicité, en passant par les matières plastiques, envisage de prendre 30% du journal. Pour les personnels de Libération, ce qu'il faut avant tout préserver, c'est la part qu'ils possèdent déjà dans le capital.
Nous avons actuellement un tiers. Un des problèmes, c'est qu'effectivement, cette participation reste à un niveau important parce que c'est le signe que le journal est d'abord le journal de ses journalistes avant d'être celui de ses actionnaires qui sont néanmoins nécessaires puisqu'on a besoin de développer le journal.
5 ou 6 quotidiens nationaux français pour représenter et exprimer l'opinion de 60 millions de citoyens, c'est manifestement insuffisant. Ils sont plus de 20 en Grande-Bretagne, 15 en Italie. Au-delà de la santé financière des entreprises de presse, c'est du fonctionnement de la démocratie dont il est question.
Jean-Michel Dumay, comment on va conclure avec Jean Stern, mais comment vous jugez actuellement la situation du monde dont vous êtes sorti ?
Je regrette que les journalistes, de manière générale, ne soient pas plus investis dans la vie de leurs entreprises. C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure de journaliste manager, au-delà des dirigeants, j'ai toujours considéré qu'au monde, les journalistes étaient responsables de leur entreprise. Oui. Mmh. Et ils n'avaient pas vocation un jour ou l'autre à déléguer toute la part économique à d'autres. C'est un peu le même débat dans la société française, si vous voulez. C'est qu'à un moment donné, il y a un conflit entre le politique et l'économique. Là, on a délégué, la gestion se fait à des hommes spécialisés dans le domaine de la gestion, et les journalistes ont abandonné complètement cela. Je pense que c'est toujours important de garder en tête comment se gère une entreprise, essayer de coller aux réalités. C'est très facile d'endormir une rédaction. On vous donne beaucoup de RTT, on vous donne des salaires plutôt confortables, et vous déconnectez de la société. Enfin, les journalistes sont comme tout le monde, ils ont des emprunts à rembourser. Je ne veux pas dire par là que tout le monde n'est pas courageux, bien sûr, mais il faut déployer beaucoup de courage quand on veut aller sur certaines terres d'enquête qui ne sont pas forcément évidentes.
Non, moi je veux dire que c'est de la trouvaille du livre, et tout d'un coup, ça a rendu les choses encore plus cohérentes, ce que j'avais vu, sans comprendre, c'est-à-dire surtout ce mécanisme extrêmement complexe des sociétés qui s'embriquent les unes dans les autres. Donc finalement, on ne sait même pas pourquoi ils ont fait ça, etc. Et tout d'un coup, on se dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Parce que l'opacité plus la complexité fait que ça fait des réductions fiscales. Pour aller, je vais peut-être un peu vite, mais tout d'un coup, je me suis dit, ça m'a semblé tout à fait cohérent en tous les cas.
La conclusion de Jean Stern n'est pas très gaie. Hein. On ne voit rien qui puisse enrayer ce déclin. C'est foutu.
Non. Non, Jean-Michel, il a dit quelque chose d'important. À l'instant, il a dit courage. Hein. Moi, je dis rage. Donc, voilà, courage, rage, inventer, innover. Bah ouais, pour moi, aujourd'hui, ils ont voulu se faire trop gros, tous ces journaux. Et c'est ça aussi qui les a détruits. Et je pense qu'il faut retourner à cette notion qu'on peut résumer de l'expression suivante, small is beautiful, faire des choses plus petites, des choses à notre échelle, des choses dans lesquelles les journalistes peuvent garder le contrôle et la maîtrise d'opération. À partir d'un certain moment, on nous a donné de l'argent pour nous faire taire, en gros. Et on a acheté leur silence et on a été assez lâches. Hein, et je me mets dedans. J'ai pas été plus courageux que les autres. J'ai voté oui à tel endroit, oui à tel autre, etc. Donc on s'est fait enfumer et on s'est fait endormir. Aujourd'hui, bah, l'innovation média, elle se passe en dehors du monde des quotidiens. Et là, je crois que ça marche. On invente des choses. Bah, Véronique est là, c'est ciné mensuel. Ouais, ciné mensuel fait vivre une équipe, sort tous les mois. Vous avez Charles, vous avez...
Mediapart sur Internet,
Transuf. Bon, il y a toutes sortes de modèles qui s'inventent. Ce qu'on sait, en tout cas, et ce dont je suis sûr, c'est que si on va vers le gratuit, eh ben là, on est condamné à se mettre tôt ou tard dans les mains des patrons. Ça, c'est clair et net.
Bon, bah alors ça finit pas trop mal. Non. Rage et courage.
Rage et courage, absolument.
Merci à tous les trois. Voilà, et le numéro de Fakir, ça tombe bien, vient de sortir. C'est du fonctionnement de la démocratie dont il était question au cours de cette heure. Les patrons de la presse nationale, tous mauvais. Merci à Véronique Brocard de Ciné Mensuel, à Jean-Michel Bumet, ex-Monde, et Jean Stern, auteur du bouquin paru à la Fabrique, les patrons de la presse nationale, tous mauvais. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas, si j'y suis, où nous attendons vos commentaires, ainsi que sur le site là-bas.org, la-bas.org. Vous pouvez réécouter et faire des commentaires là aussi sur ce site. Et puis il y a aussi la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Maxime, Anna et Renan Mahé, c'est Lucie Acoun et Chloé Sanchez qui ont réalisé cette émission préparée avec Pierre-Yves Bulteau et Marion Dumpas. Attend vos messages sur le répondeur de la base, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
SNCF, aujourd'hui, TGV Pro, t'as l'air inquiet.
Cette réunion n'en finit pas, je vais rater mon train, du coup j'hésite entre quitter discrètement la salle entre les slides 23 et 24 ou faire sonner mon portable.
Allô, oui, ah désolé, je dois y aller, ordre du patron.
Tu sais, tu devrais passer en mode TGV Pro. Avec l'avantage ProFlexi, tu profiterais d'une souplesse d'échange et de remboursement maximale. Ainsi, tu finirais ta réunion en toute sérénité. Offre soumise à condition, plus d'informations sur sncf.com. SNCF.
La Clémentine de Corse, elle vient de débarquer. Vous n'avez que 2 mois pour découvrir son délicieux caractère et faire le plein de vitamines. La Clémentine de Corse, qu'attendez-vous pour la déguster ?
Campagne cofinancée par l'Union européenne et la collectivité territoriale de Corse.
16h et quelques secondes sur Inter. À demain, 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
Il y a bien eu erreur, mais on ne peut rien y faire. La commission de contrôle de l'UMP reconnaît aujourd'hui que le vote des 3 circonscriptions d'outre-mer n'ont pas été pris en compte lors du comptage des voix et que si on le faisait, ils inverseraient probablement les résultats en faveur de François Fillon. Mais la COCOE précise dans le même temps qu'elle n'a pas le pouvoir de le rectifier. Voilà où on en est donc dans la crise de l'UMP. Alain Juppé, lui, a proposé un compromis aujourd'hui pour résoudre le contentieux. Il préside une commission qui aura pour charge de réexaminer les résultats du vote de l'élection pour la présidence de l'UMP. Cette proposition sous forme d'ultimatum vaut jusqu'à ce soir 20h. L'initiative a été saluée par François Fillon, mais pas de réponse de Jean-François Copé pour l'instant, qui jusque-là lui avait proposé de saisir la Commission nationale des recours pour recompter les voix et il proposait à Alain Juppé de se cantonner à un rôle d'observateur. Loin de tout ça, Nicolas Sarkozy est lui à Bordeaux depuis ce matin. L'ancien chef de l'État est dans le bureau du juge Gentil en charge du dossier Bettencourt. Nicolas Sarkozy est entendu dans le cadre d'un possible financement ici de sa campagne en 2007 grâce à de l'argent liquide versé renversé par Liliane Bettencourt, il risque une mise en examen. Le gouvernement confirme aujourd'hui, oui, un nouveau mécanisme contre la cherté des prix de l'essence à la pompe est bien à l'étude. Le dispositif mis en place fin août expire à la fin du mois. Il a permis une baisse de provisoire des carburants de 3 à 6 centimes par litre. D'ici là, Total s'est engagé ce matin à ne pas remonter brutalement les prix. L'appel du maire UMP de Sélestat dans le Bas-Rhin à Arnaud Montebourg. Marcel Boer demande l'intervention du ministre du Redressement Productif après l'annonce d'Albanie de supprimer plus de 200 emplois à Sélestat et à Saint-Junien en Haute-Vienne. Le maire de Sélestat dit ne pas comprendre. Il réclame l'organisation au plus vite d'une table ronde. Ce sont les syndicats du groupe spécialisé dans le textile pour les industries qui ont appris les suppressions de postes hier lors du comité central d'entreprise en Suisse. Plus d'une centaine de salariés de la CAF ont manifesté aujourd'hui à Marseille, un rassemblement en marge de la réunion des présidents de toutes les CAF de France destinée à élaborer une nouvelle convention d'objectifs et de gestion. Les salariés des caisses d'allocation familiale dénoncent notamment la dégradation de leurs conditions de travail. Collecte historique pour le livret A et le développement durable le mois dernier, rebond surprise aussi pour l'assurance vie en octobre. D'après l'Association française de l'assurance, l'assurance vie a enregistré le mois dernier une collecte nette d'€1,7 milliard. C'est la meilleure collecte nette sur ce produit depuis 15 mois. À quelques heures du sommet européen de Bruxelles qui doit valider le projet de budget pour la période 2014-2020, Chypre lance aujourd'hui un appel à l'aide. Selon son ministre des Finances, Chypre a besoin d'une aide de 17 milliards d'euros pour 4 ans. Enfin, comment se connecter aux 6 nouvelles chaînes de la TNT en décembre? Un site internet a été lancé aujourd'hui, toutelatnt.fr. Et un numéro de téléphone, le 0970-818 deux fois, a été mis en place pour répondre à toutes les questions des téléspectateurs. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Samedi sur France Inter,
nous allons accueillir une chanteuse remarquable.
Toute une journée avec Barbara.
Barbara.
Voilà, c'est tout.
À l'occasion du 15e anniversaire de sa disparition, hommage à l'une des plus grandes figures de la chanson française.
Pourquoi le fais-je ce métier?
Parce que je l'aime.
Tout au long de la journée, retrouvez Barbara en parole et en musique dans les émissions de France Inter. Interview, archives, musique live. Et pour clôturer cette journée spéciale, rediffusion inédite du concert de Barbara enregistré à Bobino en 1965. Toute une journée avec Barbara.
C'est tout.
À suivre sur France Inter samedi de minuit à 22h.
France Inter.
Et c'est l'heure de Carrefour de l'Odéon avec Frédéric L'Odéon, bah oui.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Je vous propose aujourd'hui un parcours chronologique, pourquoi pas, dans l'histoire de la musique. Évidemment, on ne peut pas citer tout le monde parce que sinon il faudrait, je ne sais pas moi, quelques mois entiers. Et là, en 55 minutes, on peut quand même parler d'Antonio Vivaldi. Vivaldi, évidemment, qui est très aimé, très connu, trop connu, on dit certains. La méchanceté a poussé Stravinsky à dire qu'il écrivait toujours le même concerto, mais ça n'est pas vrai, bien sûr. Mais Stravinsky aimait bien taquiner aussi. Et je vous propose, moi, un concerto pour deux violons. On sait que Vivaldi était un virtuose, qu'il avait des élèves, qu'il se plaisait à jouer avec ces élèves-là, souvent des jeunes filles, à l'Ospedale della Pietà, une institution qui était chargée de les protéger, de les recueillir. Voici l'allegro d'un concerto pour deux violons en la mineur, du prêtre roux, comme on disait, c'est la couleur de ses cheveux, et puis en principe sa vocation d'être prêtre. Enfin bon, Antonio Vivaldi pour nous autres. Thank you. Le premier mouvement, Allegro, d'un concerto pour deux violons en la mineur d'Antonio Vivaldi, en soliste celui qui mène l'orchestre aussi, le Concertmeister, Georg Kalweit et Midori Zeiler étaient à ses côtés. L'Académie für Alte Musik de Berlin, c'est l'orchestre que vous avez entendu avec plaisir, je pense. Et puis, on les entend très souvent dans la musique ancienne et ils font merveille. Mais on peut juger que c'est un orchestre vraiment aussi excellent, par exemple, que celui de Freiburg, l'orchestre baroque. Mais on va avancer dans cette époque baroque, justement. Antonio Vivaldi, né en 1660, qui est décédé à Vienne, où il cherchait